Les élus au chevet de la DEC. Hier, le Congrès a voté par amendement une aide aux enseignements privés de 400 millions de francs. Retour sur la séance publique dès le début du journal. Une visite discrète mais très symbolique et politique. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, a rendu visite à Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. 45 minutes d'entretien au sujet notamment des conditions de détention. Une opération pratiquement couronnée de succès pour la police. 5 nouveaux suspects arrêtés pour le casse du Louvre. Les enquêteurs recherchent toujours les bijoux. Dans ce journal, le sourire de Juliette Collet, notre Miss Nouvelle-Calédonie, s'envole ce soir pour l'aventure Miss France. Elle était hier notre invitée dans le journal d'hier soir. Le sport du tennis et Valentin Vachereau, solide comme un roc. Le Monégasque s'est qualifié pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters. La météo en Nouvelle-Calédonie, le temps reste nuageux, humide et instable avec un risque d'averses orageuses qui balayent le territoire d'est en ouest. Les températures maximales sont stables et toujours élevées, de 28 à 31 degrés, voire 32 à 33 degrés sur le sud-ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, et la Nouvelle-Calédonie qui doit faire face à la baisse importante des recettes fiscales. Les élus du Congrès étaient réunis hier en séance publique pour examiner des décisions modificatives de ces budgets. Des élus qui ont aussi soutenu l'enseignement privé en finançant la fin de l'année, Léana Colombo.
Et l'objectif est de boucler l'année en prenant en compte le versement et la deuxième tranche du PGE, mais aussi la baisse très importante des recettes fiscales. Les collectivités vont devoir revoir à la baisse leur budget de 3,1 milliards par rapport au budget primitif de reversement de la Nouvelle-Calédonie. Dans le détail, 1,7 milliard pour les provinces, 520 millions pour les communes et 860 millions pour le gouvernement. Écoutez Thierry Santa, membre du gouvernement en charge du budget.
Le constat de 2025, c'est que nous avons perdu 50 milliards de recettes fiscales entre 2023, qui est l'année de référence, c'est-à-dire antérieure aux événements de 2024, et cette année 2025. 50 milliards, ça représente 25% des recettes fiscales globales du pays. C'est énorme. Heureusement que cette baisse a été bien compensée par la dotation du PGE, du prêt garanti par l'État. Le constat, c'est celui-là. Maintenant, la reprise économique que tout le monde espère, si elle se passe en 2026, et ce serait une bonne chose, je pense que tout étant lié, la stabilité institutionnelle peut avoir un impact évident sur une reprise économique, mais nous continuons à travailler avec l'État pour envisager également un soutien de la part de l'État pour relancer les investissements collectifs des collectivités et participer, ce faisant, aussi à une reprise de la relance économique.
Lors de cette séance, les élus ont également approuvé un changement d'affectation du produit de la TGC pour un montant d'1,140 milliard pour faire face aux dépenses de santé. Thierry Santa, membre du gouvernement en charge du budget.
L'impact effectivement sur les communes, les provinces et la Nouvelle-Calédonie par l'intermédiaire du budget de répartition sur lequel est prélevé ce 1,1 milliard que vous évoquez au bénéfice de l'agence sanitaire et sociale est évident. Il y a forcément une baisse de dotation ensuite des collectivités, mais ce transfert était absolument nécessaire pour pouvoir continuer à financer nos régimes sociaux compte tenu de la perte de recettes constatée de l'agence sanitaire et sociale. Quand je dis les régimes sociaux, c'est le RUAM, c'est tous les régimes que tout le monde connaît, c'est le minimum vieillesse, le minimum retraite, l'aide au logement, enfin toutes les aides finalement que la Nouvelle-Calédonie apporte aux Calédoniens.
Lors de cette séance, le prêt garanti par l'État a fait débat, et notamment l'enveloppe dite subvention républicaine. À l'origine, la deuxième tranche du PGE était de 28,6 milliards de francs, mais les conditions de décaissement ne sont pas toutes remplies, selon l'État, qui n'a donc versé que 26,1 milliards pour le compte de cette deuxième tranche, et a décidé de verser le reliquat sous forme d'une subvention républicaine, qui est en fait un prêt et dont les affectations avaient été fléchées, notamment vers les communes, pour financer le transport scolaire et les cantines. Les groupes loyalistes et rassemblements ont déposé des amendements pour ventiler différemment cette enveloppe de 2,5 milliards. L'objectif était de dégager 400 millions pour financer les services de cantine et d'internat de la DEC, de la FEB et des structures de l'ASE. Cette enveloppe va permettre aux enseignements privés de boucler l'année, mais il faut revoir les problèmes structurels, selon Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l'enseignement.
Ça ne résout pas le problème structurel de la DEC. Ce qui est important, c'est que cette aide, elle va être conditionnée à la réalisation d'une étude. Ce n'est pas une volonté de contrôle de la DEC, c'est une volonté d'établir une stratégie, au moins pour les 5 prochaines années, pour que la baisse des effectifs, parce que ça aussi, c'est un souci, et les contraintes budgétaires, soit suivie aussi d'un plan de réforme important qui va permettre la viabilité de la DEC. Si la DEC ne se réforme pas, de toute façon, l'année prochaine, au mois d'octobre 2026, il y aura aussi encore le même déficit qui est constaté. Donc il y a une baisse des effectifs, il faut une carte scolaire concertée, puisque les enseignements privés sont payés à l'élève. Donc évidemment que ça impacte également leur budget. On a connaissance aussi, ça a été dit par certains élus, de certains détails des comptes de la DEC, et on estime que sur certains sujets, notamment sur des politiques salariales, etc., internes, il y a des efforts à faire.
La DEC n'a pas souhaité réagir hier à ces fonds, alors que la direction diocésaine de l'enseignement catholique avait annoncé qu'elle serait contrainte de fermer les cantines à partir de la semaine prochaine et mettre fin à un certain nombre de contrats de personnel non enseignant.
Pas de réaction hier, mais donc tout à l'heure sur Radio Rythme Bleu à 7h30. C'est en effet le directeur diocésain de la DEC, Manuel Van Arscott, qui sera notre invité du matin, donc à 7h30.
Info matin, 6h36.
En bref, le FLNKS appelle à une manifestation ce matin pour dire non au report des provinciales et non à Bougival. Cette mobilisation est organisée au lendemain de l'adoption par le Parlement de la loi organique et à quelques heures de l'arrivée de la ministre des Outre-mer sur le territoire. Elle se déroulera de 8h à 14h face au Haut-Commissariat. J'ajoute qu'en raison de cette manifestation, la ville de Nouméa annonce des restrictions de stationnement et de circulation dans le centre-ville. Le stationnement est interdit depuis 5h sur certaines portions des avenues Paul Doumer et Maréchal Foch. La circulation sera interdite à partir de 7h sur certaines portions des avenues Paul Doumer et Maréchal Foch. Enfin, la circulation sera interdite à partir de 8h rue de la République sur la portion comprise entre la rue de Sébastopol et l'avenue Foch. J'ajoute par ailleurs qu'un bureau politique élargi du FLNKS se tiendra samedi, demain, au Faré de la mairie de Canala. À l'ordre du jour, notamment l'analyse de la situation politique, la visite de la ministre des Outre-mer ou encore les relations extérieures. Toujours en bref dans l'actualité judiciaire, un homme de 30 ans condamné à 10 mois de prison ferme pour des exactions à Thiot. Très défavorablement connu de la justice, il a reconnu avoir agi sur ordre de la CCAT. L'homme est reconnu coupable de vol de matériel et de carburant sur le site de la SLN et d'avoir également mis plusieurs fois le feu en bord de mer. Et puis l'actualité judiciaire, toujours une famille de Marais porte plainte après la mort d'un homme de 31 ans vendredi 17 octobre. L'airbag de sa voiture aurait explosé alors qu'il était à l'arrêt puisque le véhicule n'était pas en état de rouler. La famille a porté plainte pour homicide involontaire par personne morale pour savoir s'il s'agit du problème des airbags défectueux de Takata.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Tout d'abord, la réponse à notre question d'hier. 67% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que lors de son prochain séjour en Nouvelle-Calédonie, la nouvelle ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, arrivera à ramener tout le monde autour de la table. Ils sont que 33% donc à penser que ce ne sera pas le cas. Voici maintenant notre question du jour. Êtes-vous favorable à la démocratie participative au Congrès avec une implication citoyenne dans les débats, voire dans la fabrication des textes? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain, samedi, pour la réponse à la question du jour. Et puis un rendez-vous sur notre antenne après l'adoption par le Parlement de la loi organique qui reporte les provinciales. Où en est l'accord de Bougival et quelles sont les prochaines étapes de sa mise en œuvre? Ce sont les questions qui seront posées à Virginie Rufnak, la chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui sera ce midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Elle sera également interrogée plus globalement sur l'actualité politique calédonienne et sur la prochaine visite de la ministre des Outre-mer. Virginie Rufnak, invitée de Transparence, c'est à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. En attendant, il est 6h40, on va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité en métropole et notamment cette visite de Gérald Darmanin à la prison de la Santé. Il a rencontré Nicolas Sarkozy.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La clinique vétérinaire de l'Hippocampe renaît après l'incendie. Retrouvez-nous au 4e kilomètre, 6 rue Chalier, avec du matériel de pointe dernière génération et une équipe disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour vos compagnons à quatre pattes. Plus d'infos sur Facebook, clinique vétérinaire de l'Hippocampe.
Avec Magie, du 1er septembre au 31 octobre, tente de remporter 2 millions de francs en bon d'achat. Achète un paquet de nouilles Magie et si tu as de la chance, tu y trouveras un paquet gagnant. Tu peux aussi jouer gratuitement chez Nestlé NC. Jeu gratuit sans obligation. conditions d'achat, règlement disponible chez Maître Citrita.
Peugeot, Subaru, Citroën, Chevrolet, Isuzu et plein d'autres grandes marques automobiles vous donnent rendez-vous les 6, 7 et 8 novembre prochains pour le Salon du Village Automobile. Le Salon du Village Automobile, c'est l'événement auto de l'année. 11 grandes marques sur un seul site, un grand parc de véhicules d'occasion, des offres uniques jusqu'à 1 million de francs de remise et nos partenaires financiers pour simplifier vos projets. Ambiance festive, animation, jeux, surprises pour toute la famille et 700 000 francs de carburant à gagner. Ouvert de 7h30 à 18h, entrée gratuite. Le Salon du Village Automobile, c'est du 6 au 8 novembre au PK4 à Nouméa.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Tirage au sort le 14 novembre. Valeur totale du lot 700 000 francs. Règlement disponible sur cph.nc ou chez Maître Citrita.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB Matin, le journal. Nicolas Legrand.
C'est donc une visite aussi symbolique que politique. Près de 10 jours après l'incarcération de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé, Gérald Darmanin s'y est rendu discrètement hier matin. Le garde des Sceaux et l'ancien président ont échangé pendant près d'une heure, Arthur Delaborde.
Oui, information du Figaro confirmée à Europe 1 par une source proche du ministre de la Justice. Le rendez-vous entre Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin a eu lieu vers 19h hier soir en présence du directeur de la prison de la Santé. Les discussions ont duré environ 3 quarts d'heure. Elles ont porté sur les conditions de détention et de sécurité, et en particulier sur celles concernant l'ancien président, incarcéré après sa condamnation dans le dossier du financement libyen de sa campagne, une décision dont il a fait appel et qu'il conteste fermement. Le garde des Sceaux a ensuite prolongé sa visite auprès du personnel pénitentiaire pour évoquer plus largement les conditions de travail et de sécurité au sein de la maison d'arrêt parisienne. Une visite qui fait écho à une promesse. Le 20 octobre dernier, Gérald Darmanin avait déclaré publiquement qu'il irait voir Nicolas Sarkozy en prison. Il l'a donc fait discrètement 9 jours plus tard.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Une grande première aujourd'hui à l'Assemblée nationale à l'occasion de sa niche parlementaire. Le Rassemblement national a pour la première fois de son histoire fait adopter un texte. Il s'agit d'une proposition de résolution visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Sur fond de crise politique qui dure depuis plus d'un an maintenant entre Paris et Alger, le RN qui savoure cette victoire très serrée toutefois. Maïalène Trémolette est au Palais Bourbon pour Europe 1.
Oui, dans un hémicycle surchauffé entre les injonctions et les passes d'armes, c'est un seul vote qui fait tout basculer à la surprise générale.
Votant 374, exprimé 369, majorité 185, pour 185, contre 184, l'Assemblée nationale a adopté.
Une majorité obtenue donc grâce à l'alliance des voix du RN, de l'UDR, mais aussi de la droite républicaine et des élus Horizon, et en l'absence très remarquée de Gabriel Attal. Dans les instants qui suivent, les troupes marinistes ne cachent pas leur satisfaction, à commencer par leur chef de file, Marine Le Pen.
C'est évidemment une journée qu'on peut qualifier d'historique pour le Rassemblement national. Je vois que la gauche est mauvaise perdante. Il faut qu'ils comprennent que la démocratie est ainsi faite que lorsqu'il y a une voix de plus pour voter un texte, eh bien ce texte passe.
Ce coup politique n'aura en revanche pas d'application concrète puisque seul le président de la République peut choisir de dénoncer un accord international. Mais la portée symbolique du vote, elle, reste majeure. D'abord parce qu'il est la preuve de la fin de l'isolement parlementaire du RN dans l'hémicycle. On gagne des galons et en crédibilité, c'est un premier pas, me disait un poids lourd du parti tout à l'heure. Ensuite parce que si le Sénat s'empare du sujet pour le voter à son tour, la pression retombera alors directement sur les épaules d'Emmanuel Macron.
Et côté réaction de son côté, le patron des Républicains, Bruno Retailleau, interpelle le chef de l'État, je cite, « Le président de la République qui a choisi de s'en remettre à la démocratie parlementaire pour sortir de la crise politique ne peut pas ignorer ce vote ». Quant au Premier ministre en déplacement dans la Manche, Sébastien Lecornu dit respecter ce vote.
La politique étrangère de la France, elle n'est pas faite par des résolutions au Parlement, ce qui ne m'empêche pas de respecter le vote de ce matin. Est-ce qu'il faut abroger l'accord de 68? Je vais vous répondre autrement, je pense qu'il faut le renégocier. Il faut le renégocier parce qu'il appartient à une autre époque. Je considère que le président de la République, et je crois l'a dit à nombreuses reprises, que désormais il faut regarder à ce que la relation avec l'Algérie reparte fondamentalement de nos propres intérêts. Et c'est pour ça que la renégociation de l'accord, en regardant nos intérêts de sécurité, peut-être aussi d'ailleurs des intérêts économiques, mérite à mon avis que l'on s'y mette. Et je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans un débat de pure politique politicienne sur le sujet, il faut chercher l'efficacité, parce que c'est ce que nous demandent aussi nos compatriotes en la matière. Et donc il faut être pragmatique.
Sébastien Lecornu, donc en déplacement dans la Manche. Dans l'actualité judiciaire, un nouveau braquage spectaculaire. 6 individus se faisant passer pour des policiers ont été interpellés à Lyon au terme d'une course-poursuite. Équipés d'armes de guerre, les malfaiteurs ont attaqué une raffinerie de métaux précieux, d'or, à l'aide de moyens explosifs. C'est la BRI qui les a arrêtés rapidement après les faits. En tout, l'opération n'aura duré que 7 minutes et les hommes sont repartis avec leur butin dans une valise. Écoutez Sébastien Gendreau du syndicat de police Unité.
La nature du butin, il s'agit de métaux précieux et a priori de lingots, des lingots d'or. En ce qui concerne le montant du butin, il est encore en cours d'estimation par les enquêteurs.
Le butin qui a été entièrement retrouvé par la police. Les 5 hommes ont été placés en garde à vue. Et puis cette question, va-t-on retrouver un jour les bijoux de la couronne après le spectaculaire casse du Louvre il y a 10 jours maintenant? En tout cas, l'enquête progresse à grands pas. 5 nouveaux suspects ont été interpellés la nuit dernière pour nous à Paris et en Seine-Saint-Denis, dont un qui aurait pu être présent au moment des faits. Des suspects qui étaient suivis de très près par les policiers depuis quelques jours maintenant. Écoutez Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police.
Il y a eu sur une des personnes une ADN qui a matché, hein, certainement une personne très précieuse pour nous révéler beaucoup de choses par rapport à ce cambriolage. On est en train d'analyser les téléphonies mobiles, toutes les données technologiques que peuvent avoir ces individus en leur possession et qui va nous permettre de bien pouvoir identifier l'ensemble du commando et l'ensemble des protagonistes et certainement les bijoux puisque c'est la priorité numéro une des enquêteurs.
Et les gardes à vue des suspects donc peuvent durer jusqu'à 96 heures. En bref, des peines de prison requises contre 4 Bulgares dans l'affaire des mains rouges taguées sur le mémorial de la Shoah. 2 à 4 ans d'emprisonnement ont été requis contre ces individus qui ont déclaré qu'ils n'étaient que des exécutants. Pour rappel, près d'une quarantaine de mains rouges avaient été taguées sur le mur des justes du mémorial de la Shoah. C'était en mai 2024.
Radio Rythme Bleu, 6h47.
L'actualité à l'étranger maintenant, on se dirige vers une accalmie sur le plan de la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Après la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump, les deux chefs d'État ont conclu un accord sur les fameux droits de douane. Le président américain qui, par ailleurs, s'est également fendu d'une annonce qui, et c'est le cas de le dire, a fait l'effet d'une bombe. Les précisions d'Alexis Bourdon pour Europe 1.
Oui, Donald Trump a ordonné à son ministère de la Défense de relancer les essais nucléaires. Une décision qui intervient 33 ans après la dernière explosion d'une charge américaine. Une réponse directe du locataire de la Maison-Blanche à Vladimir Poutine et ses essais de missiles et drones sous-marins nucléaires menés en début de semaine. Pour Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, le président américain veut installer un rapport de force avec ses rivaux chinois et russes.
Les États-Unis veulent donner un double message vis-à-vis de la Chine en voulant montrer leur supériorité de leurs armes nucléaires et puis évidemment vis-à-vis de la Russie. Cette annonce américaine advient après que le président Poutine ait fait une annonce du test de deux armes à propulsion nucléaire.
Dans les faits, les États-Unis procèdent déjà au test de leurs armes nucléaires comme le reste des nations qui possèdent cette puissance de feu. Ces essais sont plus restrictifs, sans aucun dégagement d'énergie ou de chaleur. Et en durcissant le ton et en exigeant la reprise des tests réels, Donald Trump menace de sortir d'un traité d'interdiction complète des essais nucléaires signé en 1996.
Les essais nucléaires ne doivent jamais être permis sans aucune circonstance. Sous aucune circonstance, déclare aujourd'hui un porte-parole de l'ONU. Et d'autre part, le porte-parole du Kremlin précise, lui, que les tests sur des missiles ou des sous-marins ne sont pas considérés comme nucléaires. Il est 6h49. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Merci d'être avec nous ce matin pour ce 6-8. À ne pas manquer, après la publicité, la suite de l'actualité et notamment une interview de Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie 2025, qui s'envolera pour la métropole ce soir pour vivre l'aventure Miss France. Elle était dans nos studios hier soir.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Préparez votre cri le plus terrifiant et enfilez le costume le plus diabolique. Le vendredi 31 octobre, la ville du Mont d'Or transforme le parc Paul Bloch à Plume en un royaume d'épouvante horriblement amusant pour petits et grands. Frissons garantis. Au programme, le terrifiant château de l'horreur. Participez au concours de déguisement et ne manquez sous aucun prétexte le zombie show spectaculaire. Et sans oublier, la chasse aux bonbons. Ne ratez pas la soirée d'Halloween 2025 du Mont d'Or. Vendredi 31 octobre, de 16h à 21h, au parc Paul Bloch à Plume. Renseignements au 41 90 90.
La Mutuelle du Nickel est heureuse de vous accueillir dans son nouveau centre au Pécassètre Jacques-Yécaoué. Venez découvrir votre nouvel espace santé avec les opticiens, l'audition et l'ophtalmologie mutualiste, ouvert à tous les mutualistes. La Mutuelle du Nickel, votre santé, notre priorité.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons enfants!
Du lundi au vendredi à 10h50 et à 15h50. Allons enfants, un rendez-vous instructif et rigolo proposé par la province sud.
Et ouais!
toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
À travailler à ce que la Nouvelle-Calédonie se réintègre dans son environnement pacifique et notamment mélanésien. C'est l'objectif du président du gouvernement Alcide Ponga qui rentre d'un déplacement officiel en Papouasie-Nouvelle-Guinée où il a notamment rencontré le Premier ministre James Marape, Léana Colombo.
Oui, le but est d'amplifier un partenariat autour de divers secteurs comme l'économie, le commerce, l'éducation, le sport ou encore le développement durable. Plusieurs pistes ont été évoquées, mais elles restent encore à concrétiser, souligne le président du gouvernement.
On a abordé plusieurs points en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec le Premier ministre Marape, mais on n'a pas tranché. Donc ce sera le travail que devront faire nos équipes sous, je l'espère, moins de 3 mois, et qu'on puisse arriver à quelque chose de concret qu'on signera avec le ministre Marape. Par exemple, il a abordé la question de l'accompagnement des sportifs de haut niveau en Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme il sait que la Nouvelle-Calédonie a de très bonnes structures. Il m'en a parlé, il a parlé aussi de la formation des diplomates Papou. Donc nous aussi, on a échangé, on a discuté avec eux sur des questions énergie, sur des questions mines, etc., etc. Je balaye un peu tout ça assez rapidement, mais je pense que c'est un travail que devront faire nos équipes pour qu'on puisse choisir 2 ou 3 domaines, mais pas trop non plus pour pas se perdre sur des négociations à ne plus en finir.
Cette visite officielle marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre d'un cadre conjoint de coopération qui avait été signé en 2018 pour fixer les grandes lignes de partenariat à développer entre Port Moresby et Nouméa. Alcide Ponga veut maintenant passer à la vitesse supérieure.
C'était un engagement de part et d'autre de travailler ensemble, d'essayer de développer des relations et de la coopération entre les deux pays. Donc, écoutez, vous savez pas quoi ? Maintenant qu'on a décidé de le faire, maintenant on va le faire. Voilà, c'est un peu l'objet de la mission que j'ai conduite en PNG. Et c'est que maintenant, il faut travailler sur des pistes concrètes et il faut développer de la vraie coopération et ne pas rester sur des MOU ou sur des plans de coopération.
Le président du gouvernement a aussi échangé avec le ministre des Affaires étrangères, Justin Katchenko. Il a également soutenu la mission économique Team France Export Nouvelle-Calédonie qui travaille sur des opportunités de collaboration économique en mettant en valeur le savoir-faire calédonien. Une réintégration de la Nouvelle-Calédonie dans son environnement régional qui est essentielle pour Alcide Ponga.
Ça fait partie des choses que je porte depuis que j'ai été au Forum des îles du Pacifique. C'est un sujet qui est important pour moi, l'intégration de la Nouvelle-Calédonie dans son environnement pacifique et notamment anglo-saxon et surtout mélanésien. Il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a le Salomon, il y a le Vanuatu, il y a nous-mêmes et il y a Fidji. Donc il faut que la Nouvelle-Calédonie en puisse s'intégrer plus dans tout ce qui se passe, même si nos frères du Pacifique sont anglophones. Nous, on est francophones, mais je pense qu'il y a des choses qu'on est capable parfaitement de faire ensemble.
Cette mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée vient après le déplacement du président du gouvernement en septembre au Salomon. Il doit ensuite se déplacer au Vanuatu en décembre et au Fidji au premier trimestre 2026.
L'actualité dans la région à présent avec la lutte contre le trafic de drogue en Australie. Les services de police ont découvert 128 kilos de cocaïne et arrêté 2 ressortissants fidjiens. C'est la correspondance ce matin de Jean-Pierre Zajac.
C'est 128 kilos de cocaïne d'une valeur à la revente estimée à près de 4 milliards 230 millions de nos francs, ont été découverts dans la soute d'un avion cargo qui venait d'atterrir à Sydney. 2 ressortissants fidjiens, âgés de 24 et 26 ans, ont été arrêtés en flagrant délit alors qu'ils tentaient de prendre possession de la cargaison de cocaïne qui avait été placée sous surveillance dans un entrepôt de transit proche de l'aéroport. Les perquisitions entreprises à leur domicile respectif ont abouti à la saisie de nombreux autres types de drogues et à la découverte d'une somme équivalente à 1 200 000 de nos francs en espèces. Les 2 Fidjiens ont donc été inculpés pour trafic de stupéfiants, un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Info matin, 6h54.
Et c'est donc dans quelques heures maintenant que Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie 2025, s'envolera pour la métropole où le 6 décembre prochain, elle représentera le territoire pour l'élection de Miss France. 2 mois après son élection, Juliette poursuit donc l'aventure et le programme des semaines qui viennent s'annonce chargé. Écoutez Juliette Collet, elle était l'invitée de notre journal hier soir à 17h45.
J'arrive à Paris, je rejoins un membre du comité qui est déjà sur Paris qui s'appelle Nicolas Salande, que je n'ai d'ailleurs jamais rencontré. Donc j'ai hâte de le rencontrer. Avec lui, on va sélectionner des tenues d'hiver, puisque ici en Nouvelle-Calédonie, on a eu du mal à trouver des pulls et des manteaux, surtout en cette période. On sélectionne donc des tenues d'hiver, des tenues de soirée, puisque également ici, on ne trouve pas des tenues de gala, paillettes. Mm-hmm. C'est pas trop l'esprit. Le comité Miss France nous envoie une liste très détaillée, au motif près, à la couleur près, aux interdictions, à la coupe, etc. Donc, il y a, je pense, une centaine de choses à prévoir. Ensuite, je rejoins le comité Miss France. À partir de là, c'est eux qui se chargent de moi. On part une semaine en Martinique et ensuite on va à Amiens qui sera le lieu de l'élection.
L'élection de Miss France 2026 se déroulera ensuite le 6 décembre à Amiens, un moment dont Miss Nouvelle-Calédonie veut profiter au maximum. Juliette Collet qui sait déjà ce qu'elle fera lors de son mandat si elle devait être élue Miss France.
Un de mes rêves, ce serait de faire le tour de toutes les régions de France en hexagone et hors hexagone, puisqu'on est tellement différents entre régions et on a tellement de choses qui sont riches. Tout ça, en fait, j'aimerais bien en faire des petits reportages par région. Pourquoi pas avec les candidates, les Miss régionales, et qu'elles me fassent découvrir, je sais pas moi, le saucisson, faire les fêtes basques, aller voir en Alsace les grosses trompettes, etc. Je pense que ce serait un de mes rêves. Donc si c'est avec Miss France, ce serait encore mieux. Et puis, si je reviens, j'ai encore beaucoup de choses à faire ici aussi. Et je me sens encore plus concernée, évidemment, par la Nouvelle-Calédonie où j'ai grandi. Et il y a des tas de belles choses à faire.
Juliette Collet, invitée hier de notre journal de 17h45, interrogée par Lionel Sabot. Une interview à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Il est 6h57, on marque une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Oh bah, c'est quoi toute cette neige? Tu prépares les décos de Noël?
C'est pas de la neige, c'est de la farine. J'essaie de faire de la pâte à pizza, mais c'est galère.
Pourquoi tu t'embêtes? À la Maison du Pain jusqu'au 31 octobre, pour l'achat d'une plaque de pizza à 3990 francs, la deuxième est à moins 50%. Il y a Rennes, trois fromages, Montagnard, pepperoni et chèvre pesto.
Ok, je fonce.
Hep, la Reine des Neiges, là. Tu nettoies tout ça avant.
Oh, mais non.
Voir conditions en magasin. Le 4, 186 rue Jacques Yécaoué. Faites vos courses autrement.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure, adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et en tennis, on jouait les huitièmes de finale du Rolex Paris Masters à la Défense Arena. Le monégasque Valentin Vachereau est sur un petit nuage. Le titulaire d'une wildcard s'offre Cameron Norrie, 31e joueur mondial, en 2-7 pour foncer en quart de finale. Il sera opposé au prochain tour au Canadien Félix Auger-Aliassime qui a battu Daniel Altmaier. Ça passe aussi pour l'Australien Alex de Minaur qui a facilement disposé de Karen Khachanov. De Minaur qui sera opposé à Alexander Bublik, tombeur de Taylor Fritz. Et enfin, l'Américain Ben Shelton a battu Andrei Rublev. On signera à l'instant également la victoire de Jannik Sinner face à l'Argentin Cerundolo. Et puis en cyclisme sur piste, plusieurs Calédoniens participent au championnat de France sur le vélodrome de Loudéac en Bretagne. Enzo Martoreggio et Chad Charest sont inscrits dans le tournoi Vitesse Cadet. Ils participeront aux demi-finales la nuit prochaine après avoir remporté les huitièmes de finale puis les quarts. Avant eux, Kirill Moutry en junior 2 a raté sa poursuite mais s'est ressaisi sur l'élimination en prenant la cinquième place. Louis Chavitz prend également la cinquième place dans le tournoi de vitesse junior fille.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
On peut dire que c'est mitigé, Thierry, pour aujourd'hui?
Oui, on va démarrer par cette vigilance jaune avec de fortes pluies et des orages pour un risque d'averse parfois orageuse et forte sur l'ensemble du territoire. Ça sera pour cette journée. Ce matin, le temps restera nuageux, humide et instable sur l'ensemble du territoire avec un risque d'averse orageuse, en particulier sur la côte est, le nord des Loyautés. Le vent orienté est-sud-est ou autour des 10 nœuds, localement un peu moins sur la moitié sud de la Grande Terre. Voyons voir à présent pour cet après-midi de fortes averses avec localement des orages se développant sur le relief, mais également sur la côte ouest, la pointe nord et l'extrême sud. Sur l'est et au Loyauté, le ciel sera nuageux, mais le risque d'averse orageuse deviendra plus faible. L'alizé pour cet après-midi, est à sud-est, autour des 10 nœuds, localement 10 à 15 nœuds sur le nord-ouest. À noter que sur l'ouest, le vent sera irrégulier, perturbé par les nombreuses averses. Les températures maximales pour cet après-midi, donc 28 à 31 degrés en général, et c'est jusqu'à 32 voire 33 degrés, ça sera sur le sud-ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal.